CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30. La vie du Grand Rodez.
Bonjour à tous, troisième épisode de notre série de visites guidées avec l'Office de tourisme du Grand Rodez. Après le clocher de la cathédrale, après les demeures médiévales et renaissance de la cité ruthénoise, direction aujourd'hui l'église Saint-Amand avec Annabelle, guide conférencière.
CFM, sur le Grand Rodez, 107.9. 107.9. CFM.
Alors Annabelle, on se retrouve? Et nous sommes en direction de l'église Saint-Amand.
Voilà, tout à fait. Alors là, nous sommes exactement dans la rue Saint-Amand, non loin de la place de l'Olmé. C'est un quartier qui était très important à Rodez au Moyen-Âge. On est vraiment dans le cœur du bourg de Rodez. Au Moyen-Âge, la ville de Rodez, elle est divisée en deux parties, deux communautés bien distinctes. D'un côté, la cité, qui est dominée par l'évêque, et ici, le bourg, qui est dirigé par le comte de Rodez. Et là, on est vraiment au cœur politique, économique, religieux du bourg de Rodez. Alors il faut s'imaginer qu'au Moyen-Âge, au-dessus de nos têtes, se trouvait le palais des comtes de Rodez, qui a entièrement disparu.
Ah, dommage.
Voilà, il n'en reste plus rien. Il a été détruit à partir du XVIIe siècle. Mais il faut s'imaginer, au premier étage, la grande salle, la salle comtale, où le comte rend la justice, où il tient audience. Ici, à l'emplacement de la rue Saint-Amand, une tour, qui conservait notamment les archives du comté de Rodez. Et donc, derrière nous, l'église Saint-Amand, qui constitue le cœur religieux de ce bourg de Rodez. Non loin d'ici également, la halle réservée aux marchands de draps. Lorsque les marchands de draps venaient à Rodez au Moyen-Âge, les marchands de draps étrangers, ils étaient obligés de vendre leurs produits dans cette halle. Donc là, elle a également entièrement disparu. Donc on est vraiment dans un quartier très important pour le bourg, pour la ville du comte. Et c'est aussi un quartier important pour l'histoire de Rodez et même pour l'histoire du Rouergue, parce que l'église Saint-Amand qu'on aperçoit ici, elle est liée à un personnage très important qui est l'évêque Saint-Amand, qui a été, dit-on, l'un des premiers évêques de la ville. Alors on dit souvent qu'il fut le premier évêque de Rodez. C'est assez difficile à vérifier parce que on a quand même des lacunes en ce qui concerne la chronologie des premiers évêques de Rodez. Donc on va dire que c'est un des premiers évêques de Rodez et c'est celui également qui a évangélisé le Rouergue. Donc dans l'histoire de l'Aveyron, c'est un personnage important.
C'était vers quand ça, Saint-Amand ?
Alors Saint-Amand, on estime qu'il est mort dans les années 470. Donc nous sommes au 5e siècle. Voilà, c'est les premiers temps chrétiens en quelque sorte pour Rodez. On va s'approcher de l'église Saint-Amand.
Puisque l'église Saint-Amand, elle n'a rien à voir avec le 5e siècle.
Le bâtiment que l'on voit aujourd'hui date du 18e siècle. Mais il faut savoir que ce bâtiment actuel, c'est le dernier bâti d'une série de monuments qu'on a commencé à ériger dès l'Antiquité, dès le 6e siècle en fait.
Mais alors tout à l'heure tu me disais que le comte et l'évêque, ils n'étaient pas copains, ils séparaient la ville en deux.
Oui.
Donc quand ils ont monté cette église-là avec un autre évêque?
Ça remonte, alors l'époque de Saint-Amand, là on n'avait pas la partition de la ville en deux. Voilà, c'est venu un peu après, notamment cette partition elle s'est faite autour de la question de savoir qui avait le droit d'organiser les foires. Là il y avait un enjeu économique très très fort. Les foires, quand on organise des foires, on s'assure un certain revenu puisque les commerçants qui rentrent en ville pour les foires sont soumis à un péage. Il y a donc des droits qui sont prélevés sur les marchandises. Donc celui qui contrôle les foires s'assure un revenu assez conséquent. Donc c'est pour ça que la question des foires a vraiment opposé le comte et l'évêque au cours du Moyen-Âge.
On va à l'église ?
On va à l'église.
Allez, zou. Bon, église, c'est le même grès rouge que la cathédrale ?
Voilà, c'est le grès rouge qui est la pierre qu'on retrouve un peu partout à Rodez. C'est vraiment la pierre locale. C'est le même grès que la cathédrale, effectivement.
Et ça a été construit, donc ce qu'on voit là, tu me dis, au 18e siècle ?
18e, oui.
Moi, je trouve qu'elle fait plus vieille que 18e siècle, non ?
Effectivement, c'est vrai que c'est une église qui est un petit peu particulière. Avant, quelques mots sur le quartier donc de cette église. Ce quartier est très ancien. On a des fouilles préventives qui ont mis au jour des éléments d'architecture, des éléments mobiliers qui remontent à l'Antiquité, à l'époque gallo-romaine. On sait qu'à cette époque-là, on est dans un quartier d'habitation. On a des villas, on a retrouvé par exemple des éléments d'architecture tels qu'un chapiteau en bronze qui est exposé au musée Fenaille, qui est un objet qui est assez rare, puisque le bronze était ensuite réutilisé, refondu, quand il n'était plus utilisé en architecture, on récupérait le métal. Là, on en a un à Rodez qui est visible au musée Fenaille. On a retrouvé aussi des fragments de céramique de la Groffezenk, donc ce fameux atelier de potier qui se trouvait à proximité de Millau. Ces fragments aussi, on peut les voir au musée Fenaille. Donc on sait qu'on est dans un quartier d'habitation. Et puis on a également mis au jour des stèles funéraires, des urnes cinéraires qui recevaient les cendres des défunts et des sarcophages qui vont jusqu'au Moyen-Âge, qui sont datés jusqu'au Moyen-Âge. Donc on sait que d'abord il y a eu un quartier d'habitation et ensuite une nécropole, un cimetière. Et c'est sans doute dans ce cimetière que fut inhumé l'évêque Saint-Amand au 5e siècle. Et à partir de la sépulture de Saint-Amand, on a commencé à bâtir des bâtiments, des monuments divers. Cet évêque, il a été très réputé, très vénéré. Après sa mort, il y a eu un culte qui s'est développé autour de son tombeau. Et donc, petit à petit, bien ça, son tombeau a été modifié, a grandi, et on va aboutir au XIe, XIIe siècle à la construction d'une église dans un style roman qui était dédiée à Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-Amand. Mais ce n'est pas l'église que l'on voit aujourd'hui. L'église que l'on voit aujourd'hui, elle a été reconstruite à la suite de la démolition de cette église des XIe, XIIe siècle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dès le Moyen-Âge, l'église des XIe, XIIe siècle, elle a présenté des signes de faiblesse. Et donc, très rapidement, il a fallu engager des travaux de restauration, d'entretien, dès le XIVe, XVe, jusqu'au XVIIe, XVIIIe. Et au milieu du XVIIIe siècle, là, la situation est extrêmement critique. En 1750, l'évêque de Rodez est obligé de faire fermer l'église. Il interdit l'accès de l'église aux fidèles, parce qu'il y a eu des pierres qui sont tombées de la voûte. Donc c'est trop dangereux. Donc on ferme l'église. Et la solution qu'on va trouver, parce qu'il faut quand même conserver ce lieu de culte, on est dans une paroisse, hein, il faut le lieu de culte. La solution qu'on va trouver, c'est une solution radicale, on va détruire le bâtiment des XIe, XIIe siècles et on va reconstruire une nouvelle église ex nihilo, de rien. On va repartir de zéro. Et l'originalité de cette église, l'église actuelle, donc c'est une église construite au XVIIIe siècle, mais à l'intérieur, on a reconstruit une église romane, telle qu'elle pouvait l'être au XIe, XIIe siècle. Quand on la regarde de l'extérieur, c'est vrai qu'elle n'apparaît pas romane, notamment si on se place devant le portail.
On va y aller.
Voilà, donc quand on est devant le portail occidental, le portail principal, là on est face à un portail vraiment au goût du XVIIIe siècle, avec des références à l'architecture, à l'ornement XVIIIe. Alors par exemple, on a tout là-haut au sommet un fronton triangulaire, hein, cette petite chose triangulaire, c'est ce qu'on appelle un fronton. On a des motifs de volutes sur les côtés, ouais. Donc ces choses qui s'enroulent. On a également des pilastres, donc ces piliers tout plats, qui ne supportent strictement rien, qui sont juste là pour la décoration. On a également tout à fait, tout là-haut, au-dessus du fronton, on ne peut pas les apercevoir d'ici, des motifs qui rappellent les pots à feu, qui sont des vases d'où semblent sortir des flammes, qui sont des motifs récurrents au XVIIIe siècle. Donc là, on est vraiment face à un portail d'église du XVIIIe. Mais quand on rentre à l'intérieur, là, vraiment, on a une architecture romane et un décor roman. Et donc vraiment, on a voulu restituer l'esprit de l'édifice de l'église précédente, de l'église des XIe, XIIe siècle. Alors, si on s'était trouvé ici au Moyen-Âge, il faut imaginer le quartier assez différemment. Donc, le palais des comtes de Rodez se trouvait à la gauche. Et à droite, il y avait un monastère, monastère Saint-Amand, qui d'ailleurs a été donné par le comte de Rodez à l'abbaye Saint-Victor de Marseille, qui était l'une des plus grandes abbayes du sud de la France, qui avait d'immenses domaines, un territoire très très étendu, et donc à qui on a donné ce monastère qui est devenu un prieuré donc de l'abbaye Saint-Victor de Marseille. Ce prieuré, il n'en reste quasiment rien, mais quand on regarde le nom des rues, dans la toponymie, il existe un petit passage qui s'appelle Passage du Prieuré, qui se trouve derrière, qui relie en fait la place de la Madeleine à la rue de l'Aumière, et le passage du Prieuré fait référence à ce prieuré médiéval donc, qui se trouvait à côté de l'église Saint-Amand. Petit détail, avant d'entrer, au niveau du portail principal, il y a un tout petit détail qu'il faut chercher quand on est devant ce portail, au niveau des boiseries, au niveau de la porte, il y a un fer à cheval qui est fixé. Alors ce fer, il fait référence à l'un des principaux miracles de Saint-Amand. Les miracles de Saint-Amand, les miracles qui sont attribués à cet évêque, sont évoqués à plusieurs reprises dans l'église, donc j'y reviendrai quand nous serons à l'intérieur. Mais vraiment, ce fer à cheval fait référence à un miracle très important du saint, au cours duquel il a eu maille à partir avec un riche gallo-romain, et je vous raconterai la suite dans l'église, mais il y a une histoire de cheval là-dedans.
Suspense. Bon, Annabelle, nous y voilà.
Voilà, nous sommes entrés donc dans l'église.
On est seul.
On est seul. On va se placer, voilà, juste sous la coupole.
La coupole. Ah oui.
Voilà. Alors bien sûr, reconstruire à neuf une église entière coûte cher. Parmi les différents moyens de financement auxquels on a eu recours pour bâtir cette nouvelle église, d'une part, on a revendu tous les matériaux de l'église ancienne. On a également fait appel aux fidèles. Et puis, on a eu l'aide d'un personnage assez important, puisque c'est le roi de France qui a aussi participé, qui a contribué au financement du chantier. En fait, le roi de France a accordé une partie de la recette de l'impôt, la taille, qui était prélevée sur la généralité de Montauban. Alors, la généralité de Montauban, c'était la circonscription à laquelle appartenait Rodez. Donc, le roi de France décide de reverser une partie de la taille de l'impôt qui est prélevée sur ce territoire, sous cette généralité, pour faire construire cette nouvelle église. Et on estime que la somme qui a été reversée grâce au roi de France a pu couvrir la moitié des travaux.
C'était quel roi à l'époque ?
Nous sommes sous Louis XVI. Voilà.
C'est mal terminé pour lui.
Voilà. Mais il a contribué vraiment à la construction de cette église. Alors, on est donc ici, on est à l'intérieur de l'église. Là, on découvre toute l'architecture romane. Donc, c'est vrai que de l'extérieur, cette architecture ne paraît pas. Mais là, on a vraiment tous les éléments d'architecture, éléments d'ornement. Alors, au-dessus de nos têtes, donc, une coupole qui est entièrement peinte. décoré par un artiste rouerga du nom de Saligné, qui représente l'apothéose de Saint-Amand. Donc Saint-Amand qui s'élève, c'est l'ascension en fait de Saint-Amand, Saint-Amand qui s'élève vers le ciel. On retrouve également des éléments très intéressants dans l'architecture romane qui sont des chapiteaux romans. On en aperçoit quelques-uns dans la nef. On va aller voir ceux qui sont tout à fait au fond de la nef. Voilà, donc on a toute une série de chapiteaux romans ou d'inspiration romane. On retrouve des motifs romans, donc des motifs végétaux, des palmettes, des choses entrecroisées. On a également des créatures monstrueuses telles que des griffons qui sont représentés. Ah, puis on a aussi, alors les griffons, on en a ici.
Ah ouais, là, ouais.
On a un centaure également qui est représenté là. D'accord. Et puis on a les chapiteaux historiés, donc des chapiteaux qui racontent des histoires. Par exemple, tout à fait au fond de la nef, celui à droite, on a représenté Adam et Ève. On aperçoit d'ailleurs l'arbre autour duquel s'enroule le serpent. Ouais. Et ici, à gauche, on a un chapiteau, une scène qui est intéressante puisqu'elle fait référence directement à Saint-Amand. Au centre de la scène, on a un personnage qui est vêtu d'un grand manteau et on pense qu'il pourrait s'agir de Saint-Amand faisant l'aumône aux pauvres. Voilà, donc là, on a encore une fois une référence à l'évêque. Entre ces deux chapiteaux, entre ces deux colonnes, juste au-dessus de nos têtes, a signalé le grand orgue de l'église Saint-Amand, qui est un orgue qui date du XIXe siècle. Alors, l'instrument est classé monument historique. Il a été réalisé entre 1881 et 1883 par un atelier toulousain, l'atelier Puget et Fils, qui a notamment réalisé l'orgue de l'église du Sacré-Cœur, à Rodez. Et au sommet de cet orgue, sur la tourelle centrale, donc la tourelle, c'est ce rassemblement de tuyaux que l'on voit juste au centre de l'instrument. On a un petit personnage qui est représenté avec une auréole. Encore une fois, c'est Saint-Amand. Et il tient dans ses mains un orgue portatif. Encore une fois, donc on fait référence au Saint-Évêque, donc à qui l'Église est consacrée.
Il était musicien, l'évêque de Saint-Amand ?
Non, il n'était pas musicien, mais c'est vrai que c'est une façon. Lorsqu'on a un orgue, on représente souvent des personnages, des saints ou des saintes tenant un orgue entre les mains. Au niveau de l'orgue de la cathédrale de Rodez, il y a une représentation de Sainte-Cécile qui tenait également à l'origine un orgue portatif entre ses bras.
Sinon, Annabelle, l'autre fois, on est monté en haut du clocher de la cathédrale.
Oui.
C'était très bien. Et là, il y a un clocher, mais par où on passe ?
Alors, le clocher, en fait, il se trouve ici, au-dessus de l'entrée ouest. L'accès au clocher se fait par là. Mais en revanche, ce n'est pas un clocher qui est accessible au public tel que peut l'être le clocher de la cathédrale.
Voilà, donc moi, je m'intéresse à tous les clochers. Oui. Voilà.
Alors, on va s'approcher du chœur.
Ah.
Dans le chœur sont conservées 7 tapisseries du XVIe siècle, qui sont vraiment elles forment vraiment le trésor de cette église.
Là, elles y sont, là ?
Elles y sont.
Fais voir. C'est ce qui est accroché au mur ?
Voilà, c'est ce qui est suspendu au-dessus des stalles, d'accord, en bois. Alors, on en a 5 dans le chœur, il y en a 2 dans le déambulatoire, donc ce couloir qui fait le tour du chœur. Voilà, donc là, on a 5 des 7 tapisseries qui sont exposées dans l'église. Ces tapisseries, elles remontent au XVIe siècle, et elles ont été offertes par le cardinal Georges d'Armagnac, qui a également été évêque de Rodez, qui était l'un des descendants des comtes de Rodez et d'Armagnac. Donc il a offert à cette église un ensemble de 7 tapisseries qui relatent des épisodes importants, des miracles attribués à Saint-Amand. Parmi ces miracles, l'un des plus importants, c'est celui qui se trouve représenté sur la tapisserie au centre, ouais, qui est la destruction de l'idole païenne Ruth. L'idole, elle est représentée sur une colonne. On distingue un personnage donc, au sommet de la colonne. Saint-Amand se trouve agenouillé au pied de la colonne, sur la gauche. Et en fait, on raconte que donc, Saint-Amand était l'évangélisateur du Rouergue. Et notamment, un épisode important dans cette période, ça a été la destruction de cette idole donc, qui était vénérée par les habitants de Rodez, les habitants de Ségodunum. On raconte que Saint-Amand a prié le ciel pour que l'idole soit détruite. Et l'idole a été renversée d'un coup de tonnerre, par un éclair. Donc là, on a la référence à ce miracle qui est très connu, qui est très célèbre, attribué donc à Saint-Amand. De part et d'autre de ce miracle, on a différents épisodes qui sont représentés. Alors si on part de gauche à droite, ici on a le miracle dit du juge paralysé. On raconte qu'un jour, Saint-Amand a demandé la grâce d'un prisonnier, le juge a refusé cela et il s'est retrouvé paralysé. À la suite de cet épisode, le juge a accordé finalement la grâce au prisonnier et il a retrouvé toutes ses capacités. De l'autre côté, on a une scène qui représente Saint-Amand et les voleurs de miel. On aperçoit deux petits personnages à gauche qui emportent des ruches et Saint-Amand à droite avec de nouveau les personnages agenouillés devant lui. On raconte qu'un jour, on a voulu voler des ruches qui se trouvaient dans le jardin de Saint-Amand et lorsque les voleurs ont dérobé les ruches, le miel s'est transformé en poids. Cette substance résineuse.
Ah, résidue,
voilà. Et du coup, pris de remords, ils ont restitué les ruches à Saint-Amand. Saint-Amand leur a pardonné et le pois s'est retransformé en miel. Et en guise de pardon, Saint-Amand leur a offert finalement le miel qui se trouvait dans ces ruches. De l'autre côté, on a une évocation du miracle dit d'Honora, des chevaux d'Honora. Donc ça, c'est un miracle qui fait référence aussi au petit fer à cheval qu'on a vu.
Ah, c'est ça, le cheval.
Voilà. Alors, Honora aurait été un très riche propriétaire gallo-romain, assez mécontent de voir que Saint-Amand gagnait peu à peu la population, qu'il évangélisait peu à peu la population. Et on raconte qu'il a voulu donc faire part de son mécontentement à Saint-Amand, qu'il s'est porté jusqu'à lui. Mais lorsqu'il a voulu s'approcher de Saint-Amand, ses chevaux ont été paralysés, incapables de faire un pas de plus. Les serviteurs d'Honora ont tenté de bouger, se mouvoir les chevaux. Et c'est ainsi qu'un fer à cheval, en essayant de décoller la patte d'un des chevaux pour le faire avancer, le fer à cheval qui se trouvait sur le sabot de ce cheval serait resté collé au sol, miraculeusement. Et ce serait ce fer-là qu'on aurait récupéré pour le clouer sur le portail de Saint-Amand, de l'église Saint-Amand. La fin de l'histoire, c'est que lorsque Saint-Amand apprend que Honora cherche à le rencontrer, il se porte à sa rencontre et d'un simple geste, il aurait redonné vie aux chevaux qui étaient figés sur place, et à la vue de ce miracle, Honora se serait convertie au christianisme. Dernière scène, Saint-Amand qui fait fuir les barbares qui cherchaient à envahir Rhodes. Alors Rhodes, la ville, est symbolisée par la muraille au sommet de laquelle on aperçoit des petits personnages. Les barbares qui s'enfuient en partant vers la gauche, et on distingue Saint-Amand dans les airs qui a protégé la ville de l'invasion des barbares.
Il est fort ce Saint-Amand.
Oui, oui, oui.
Il n'y a pas des reliques ?
Alors, je vais y venir.
Ah !
Voilà, ici on a une scène où on voit Saint-Amand dans une chaire, qui est en train de prêcher. Donc là, on fait vraiment directement référence à son rôle d'évangélisateur, la foule assemblée devant lui qui l'écoute. Et de l'autre côté, on a une scène qui relate les translations des reliques de Saint-Amand, c'est-à-dire que lorsque le culte de Saint-Amand s'est développé, donc on a construit des bâtiments de plus en plus importants autour de sa sépulture, et on a transféré ses reliques dans ces bâtiments au fur et à mesure des constructions pour accueillir les fidèles, pour assurer un culte à Saint-Amand. Alors, si on fait le tour du déambulatoire, on va découvrir le reliquaire de Saint-Amand.
Ah, ouh là là.
Voilà, qui se trouve ici dans la chapelle axiale. Alors, derrière ce reliquaire, on a un retable qui est daté du XVIIe siècle.
C'est quoi un retable ?
Alors, le retable, c'est cette grande chose. En fait, le retable, c'est une œuvre qui se trouve derrière un autel. On a un ensemble, ici, l'autel, en bas, et ensuite le retable qui se développe juste au-dessus. Donc, c'est un ensemble formé par l'autel et le décor derrière l'autel. Donc ici, au niveau du retable, on a une peinture qui représente encore une fois la destruction de l'idole païenne par Saint-Amand. Alors on distingue au centre une colonne, le petit personnage au sommet, et on distingue également Saint-Amand en costume d'évêque au pied de la colonne avec un grand manteau rouge. Et derrière Saint-Amand, on aperçoit la silhouette de la cathédrale de Rhodes. Alors là, la scène, elle est représentée, elle est censée s'être déroulée au 5e siècle, mais elle se tient dans un cadre qui était celui du peintre au 17e siècle, puisque là, la cathédrale de Rhodes avec son clocher n'existait pas telle qu'on peut la voir ici au 5e siècle. Et donc, sur l'autel, le reliquaire de Saint-Amand.
Le reliquaire, c'est le reliquaire. Voilà.
Alors, le reliquaire, c'est le coffret, en fait, le coffre qui contient les reliques d'un saint ou d'une sainte. Et parfois, ces reliquaires prennent la forme de la partie du corps dont sont conservées les reliques. Donc là, on a un buste reliquaire, donc une représentation d'un évêque avec sa coiffe. Et donc, on a ici renfermé les seules reliques qu'on a pu sauver de Saint-Amand pendant la Révolution française, parce qu'à la Révolution, c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de mobilier religieux, liturgique, beaucoup d'objets comme cela. Et les seules reliques qu'on a sauvées de Saint-Amand, ce sont des os du crâne. Saint-Amand, le culte de Saint-Amand, était extrêmement important à Rhodes. Notamment, Saint-Amand était réputé éloigner l'orage. On raconte que jamais la foudre n'a frappé la paroisse de Saint-Amand. Il était également prié pour éloigner les catastrophes naturelles. Par exemple, lorsque le clocher de la cathédrale de Rhodes a brûlé en 1510, on est allé chercher les reliques de Saint-Amand et on a organisé une grande procession autour de la cathédrale pour demander à Saint-Amand d'intervenir pour arrêter l'incendie. Un peu plus proche de nous, au 19e siècle, en 1826 exactement, l'Aveyron est en crue et elle menace le village du monastère qui se trouve au pied de Rhodes. Et on organise une procession derrière les reliques de Saint-Amand, qu'on va porter au bord de la rivière pour demander une décrue. Donc c'était vraiment un saint qui était très important à Rhodes, qui était très, très prié. Et donc voilà, on peut toujours admirer son reliquaire qui est exposé ici. La dernière référence importante, encore une fois, à Saint-Amand. Donc on retrouve au-dessus du portail latéral sud une grande œuvre, une toile qui représente Saint-Amand, encore une fois, au cours du miracle de la destruction de l'idole païenne.
Ils l'ont fait beau, ils l'ont fait jeune, là.
Ah oui, oui, oui. Là, c'est vrai qu'on le reconnaît assez facilement. Il a la crosse de l'évêque, la crosse épiscopale. Il est auréolé. On distingue une petite auréole dorée au-dessus de sa tête. Et encore une fois, on a la colonne, avec l'idole au sommet de la colonne qui est en train de se briser. Et on distingue un éclair de lumière Donc voilà, l'éclair qui a renversé l'idole païenne. Et tout autour de Saint-Amand, la foule qui s'agenouille devant ce miracle.
Tu as l'air de flipper, hein.
Ah, je pense que quand même, ça doit être assez impressionnant d'assister à ça. Donc c'est vrai que les personnages sont... Alors là, on est à une époque, c'est un tableau qui est daté du XVIIIe siècle, où on insiste énormément, on théâtralise beaucoup la scène. Hein. On insiste énormément sur les sentiments. Et c'est vrai qu'on voit les personnages, notamment les femmes qui sont agenouillées, qui ont un peu peur de Saint-Amand, les enfants qui s'agrippent à leurs parents. Donc on insistait vraiment sur un effet, oui, très théâtral pour mettre en avant le geste de Saint-Amand, avec derrière le ciel assombri de nuages, avec l'éclair qui vient zébrer le ciel. Donc on mettait vraiment en scène ce miracle. C'était quelque chose qui était très au goût du XVIIIe siècle, d'insister comme ça sur les sentiments, les expressions des sentiments, la théâtralité.
Mais là, je me suis perdu, on a fait le tour, là.
On a fait le tour. En fait, on a fait le tour du chœur. Pour terminer, il y a bien sûr donc des références, de nombreuses références à Saint-Amand, à ses miracles, mais il y a aussi d'autres éléments intéressants dans cette église, notamment au fond, dans la chapelle des fonts baptismaux, il y a une église, une statue de la Trinité. On n'en a pas beaucoup d'exemples en Aveyron. Voilà, la chapelle des fonts baptismaux. Alors, les fonts baptismaux, on a ici une plaque commémorative qui rappelle la date à laquelle les fonts baptismaux ont été accordés à l'église Saint-Amand, parce qu'à l'origine, il n'y avait de fonts baptismaux que dans la cathédrale de Rodez. Pour être baptisé à Rodez, on ne pouvait que se rendre à la cathédrale. Et ensuite, l'évêque de Rodez a accordé des fonts baptismaux pour l'église Saint-Amand. Donc on a ici une pierre qui le rappelle, et on retrouve les armes de la ville avec les trois fleurs de lys et les trois anneaux d'or au-dessus de cette plaque.
C'était quand ça ?
Normalement, c'est marqué sur la plaque, c'est en 1613. Voilà, l'an 1613 et le 17 novembre. Donc jusqu'au XVIIe siècle, il n'y avait que des fonts baptismaux uniquement dans la cathédrale. Juste là, voilà, la statue de la Trinité. Alors on a un grand personnage barbu, vêtu d'une tiare, donc ce chapeau. Une tiare à trois couronnes, on distingue effectivement trois couronnes superposées.
Ouais.
Ce personnage barbu, c'est Dieu le Père. Il tient entre ses bras, entre ses mains, le Christ en croix, le Fils, et sort de la barbe de Dieu une colombe qui symbolise le Saint-Esprit. Donc statue de la Trinité parce qu'on a représenté le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors c'est une statue qui a été retrouvée brisée, mêlée au dallage de cette chapelle. Elle a été restaurée, restituée. Donc, il y a quelques parties qui n'ont pas pu être restituées, mais elle a été entièrement donc reconstruite, hein, remontée. On ne sait pas à quelle période elle a été détruite, mais c'est une statue qui est datée du XVIe siècle. Et c'est vrai que cette statue est assez peu commune pour la signaler, assez originale. Et même si elle est lacunaire, hein, même s'il manque quelques parties, elle est quand même très très belle. Elle a conservé encore des couleurs d'origine. À signaler, c'est vrai qu'elle est un petit peu cachée dans cette église des fonts baptismaux, mais il ne faut pas hésiter à venir jusque-là pour venir l'admirer. Alors bien sûr, cette église, elle renferme des éléments de différentes époques, différentes périodes. On a également des vitraux datés pour la plupart du XIXe siècle. Alors notamment ici, on a, au niveau du vitrail, une représentation de Sainte Procule.
Ah,
Procule, si tu te souviens.
C'est une cloche.
Voilà, Procule, c'est une des cloches du carillon de la cathédrale qui porte son nom. Sainte Procule, donc, qui est cette jeune fille qui a été décapitée par son fiancé parce qu'elle ne voulait pas l'épouser. Là, on a Procule qui est représentée, agenouillée, auréolée, pour bien signaler qu'elle est sainte. Et donc, derrière elle, son fiancé, un personnage qui tient une grande épée, qui s'apprête en fait à lui trancher la tête. Là, donc, on retrouve aussi dans cette église des références à d'autres saints locaux, importants pour l'Aveyron, pour le Rouergue et pour Rodez. Autre élément à signaler, une jolie Pietà du XVe siècle. Donc là, sans doute, un élément qui provient peut-être de l'église antérieure, de l'église qui se trouvait ici précédemment, qui a été réutilisée, remployée et installée ici dans cette chapelle. Donc la Vierge, sur les genoux de laquelle repose le Christ mort, qui tient ses mains jointes, vêtu de son grand manteau bleu. Donc aussi une œuvre qui est intéressante à signaler.
Bon, mais c'était très bien cette petite visite de l'église Saint-Amand.
Voilà, un rapide tour de l'église. Alors bien sûr, après, il faut s'attarder un peu plus longuement pour découvrir toutes les chapelles, les retables qui sont conservés dans les chapelles. Et voilà, il ne faut pas hésiter à entrer dans cette église. En fait, c'est une église romane dans une enveloppe, on va dire, classique du XVIIIe. Donc il ne faut pas hésiter à pousser les portes et à venir visiter cette église, à l'intérieur de cette église, à parcourir cette église, qui est un monument. C'est vrai qu'en général, à Rodez, on s'attarde dans la cathédrale. Mm-hmm. La cathédrale, c'est l'un des monuments les plus visibles lorsqu'on arrive aux portes de Rodez. Mais l'église Saint-Amand, également, fait partie du patrimoine ruthénois qu'il faut signaler. Donc il ne faut pas hésiter à entrer dans cette église, à la parcourir, pour découvrir tout ce qui s'y cache.
Bah, merci Annabelle, merci beaucoup. Plaisir. On a encore appris plein de choses avec toi. Alors après le clocher de la cathédrale Notre-Dame de Rodez, après l'église Saint-Amand, la prochaine fois, tu nous emmènes où ?
Alors la prochaine fois, on ira découvrir le quartier de Lamberg. Donc là, on va partir de l'autre côté de la ville. On sera dans la cité, dans l'ancienne cité. On va se rendre chez le comte. Quartier de Lambert, qui a été un quartier d'artisans. Et puis également un quartier de résidence pour les familles de la noblesse et de la bourgeoisie ruthénoise.
On quitte tout ce qui est clergé.
Voilà. Et là, on va plutôt s'intéresser à l'architecture civile, aux demeures et donc aux artisans de la ville.
Bon, bah, à la prochaine fois.
Voilà, à la prochaine fois. CFM, au son de la pop. CFM.
C'est vrai, elle voit la vie en duo, voit la suite.